France Inter. Le 7-9.
7h49. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivain. Il publie Les Jeunes Gens, promotion Macron. C'est aux éditions Grasset.
Bonjour Mathieu Lardedi.
Bonjour.
Qui sont ces jeunes gens dont vous parlez dans votre nouveau livre ?
Alors, ils sont assez nombreux puisque j'ai rencontré une trentaine de personnes, mais les plus célèbres d'entre eux sont d'abord le président de la République, Emmanuel Macron, Matthias Wichra, qui est le numéro 2 de la SNCF, il en est largement question ces jours-ci, Gaspard Ganzer, qui était le directeur de la com de François Hollande au cours de ces trois dernières années, et puis autour d'eux, tout
quatre
un lot.
Quatre députés, des grands banquiers, des grands chefs d'entreprise.
Et surtout beaucoup de chefs de cabinet, et directeurs, sous-directeurs de cabinet, donc des gens qui ont été placés... dans un peu tous les ministères, aux quatre coins du pouvoir, on pourrait dire très tôt.
Voilà, leur point commun, c'est qu'ils ont autour de 40 ans et qu'ils ont tous fait partie de cette promotion Saint-Gor de l'ENA. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cuvée-là ? Est-ce qu'elle a quelque chose d'exceptionnel, comme on parlait, comme on a beaucoup parlé, de la promotion Voltaire qui a donné François Hollande, Ségolène Royal, Dominique de Villepin, Michel Sapin et d'autres ?
Indéniablement, oui. Ne serait-ce que empiriquement, on peut constater que effectivement, ils sont déjà partout.
Donc évidemment, ils sont partout, effectivement.
Oui, c'est ça. Et le fait est que du coup moi je me suis interrogé en écrivant ce livre sur cette présence et j'en suis arrivé à penser qu'il y a différents facteurs. D'abord des facteurs individuels, personnels, un lot de très fortes personnalités indéniablement, et puis aussi probablement certains facteurs plus circonstanciels voire historiques. Ils ont tous été très engagés politiquement tout de suite quand ils sont arrivés à l'ENA, parce qu'ils y sont entrés dans l'après 2002, 21 avril 2002.
Voilà. Vous dites qu'ils sont très marqués. Vous dites trois choses, en fait, politiquement. Vous dites que c'est la première génération de l'ENA à n'avoir pas connu le service militaire.
Oui, donc très masculine et nombreuse.
Voilà. La dernière à avoir connu le mur de Berlin et sa chute, mais aussi très marquée par le 21 avril 2002. Ça donne, dans votre livre, une promotion à la fois très fêtarde, comme si elle avait intégré la fin de l'histoire avec la chute du mur, et à la fois très politisée avec le 21 avril.
Oui, c'est-à-dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que c'est la promotion peut-être de la fin de l'histoire, mais c'est aussi la promotion qui est contemporaine du moment où l'histoire se remet en route. C'est-à-dire avec, évidemment, l'onde de choc des attentats de New York, avec cette autre onde de choc plus domestique qu'a été la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour, qui était quand même, on l'a oublié maintenant que c'est banalisé, mais vraie surprise à l'époque. Et puis plus tard aussi, avec la crise financière, enfin tout ce qui s'est passé dans les années 2000, qui les a quand même forcés effectivement à se politiser, et surtout pour ceux qui étaient marqués à gauche.
Alors, au cœur de cette enquête, il y a cette question: comment expliquer leur promotion éclair, et dans quelle mesure le fait d'avoir fait partie de cette promotion-là a été ou pas un accélérateur de carrière ? Quelle est votre réponse à la fin de l'enquête ?
C'est un peu dur à quantifier, mais ce qui est amusant, c'est de voir surtout qu'eux ont un double discours, en fait, sur cette chose-là. Certains vont vraiment dire que oui, effectivement, avoir fait partie de la promotion Saint-Gor, c'est-à-dire nourrir des amitiés depuis ce temps-là avec des gens qui ont été haut placés, a servi d'accélérateur pour leur propre carrière. Et puis d'autres, au contraire, disent « Ah non, vous savez, sont les individus qui priment, faire partie de cette promo, on aurait été d'une autre, ça aurait été pareil. Mmh. » Moi, je pense que la vérité est un peu entre les deux. C'est-à-dire que, évidemment, on aime travailler avec les gens qu'on connaît, dont on connaît les compétences et avec qui, accessoirement, on s'entend bien. Donc, effectivement, quand...
Il y en avait un qui dit ça, d'ailleurs. On se connaît depuis 20 ans, on connaît nos qualités et nos défauts, du coup, on a tendance à se recruter plus facilement.
Bah oui, mais c'est une réalité, je crois que ça existe un peu partout. Si on doit travailler avec des personnes, on choisit ceux dont on connaît déjà a priori les compétences.
Et ça fait de l'endogamie.
Oui, ça fabrique cette chose-là, oui.
Le sésame, en fait, le vrai sésame pour eux, il a un nom, il s'appelle François Hollande. C'est lui qui va faire monter toute cette génération-là dans les cabinets, comme directeur de cabinet, dans les ministères et à l'Élysée.
Oui, pour une raison très simple, qui est celle de l'alternance. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes énarques estampillés à gauche attendaient dans l'ombre et n'avaient pas eu l'occasion de se retrouver dans des cabinets avant ça. Il y en avait même qui avaient refusé d'y travailler sous Sarkozy, même si déjà sous Sarkozy, qui avait opéré une première rénovation du personnel politique, on trouvait certains membres de cette promotion. Mais c'est vrai qu'avec François Hollande, il y a une accélération brutale, tout simplement parce qu'ils étaient le vivier de jeunes technocrates, sociodémocrates disponibles à ce moment-là. Ils arrivaient politiquement à maturité et la piochaient dans ce vivier.
Et ça donne Emmanuel Macron, Gaspard Ganzer ou encore Boris Vallaud, qui est le mari de Najat Vallaud-Belkacem, voilà, et qui sera député. Comment les membres de cette promotion ont vu l'ascension d'Emmanuel Macron ? Est-ce que l'élection de Macron à l'Élysée a été un objet de fierté ? Est-ce qu'ils l'ont vu avec bienveillance, jalousie ou détachement ?
J'ai surtout eu l'impression à les écouter que la bienveillance, elle est antérieure. Ils avaient tous une certaine bienveillance pour lui. Ils lui reconnaissaient tous un vrai pouvoir de séduction, à l'époque en tout cas où ils étaient à l'école. Maintenant, leurs discours sur lui sont un petit peu plus tempérés et un petit peu plus clivés.
Vous y voyez de la jalousie ?
De la rivalité, sans doute, un petit peu, même si, évidemment, ils le diraient pas comme ça. Leur langage est toujours très contrôlé, donc ils font très attention aux mots qu'ils emploient. Mais oui, il y a une part de rivalité, il y a une part d'émulation aussi, il y a une part de compétition omniprésente hein, chez ces gens-là, d'ailleurs. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils confessent immédiatement.
C'est ce qu'on sent, en fait. Derrière les airs de franche camaraderie, on lit dans votre texte de la rivalité en permanence, que peut-être Léna leur inculque.
Oui, que l'ENA leur inculque, ou peut-être aussi que s'ils se retrouvent à l'ENA, c'est qu'ils ont déjà un petit peu cette structure morale et mentale-là. Oui, il y a un déniadement de la rivalité qui n'empêche pas l'amitié, c'est ça en fait. Ils sont dans cette espèce de jeu où ils se reconnaissent eux-mêmes comme étant de grands compétiteurs, comme on dirait dans le sport.
Il y a l'un d'entre eux, le député LR Julien Aubert, qui vous dit ça. Sous ses airs contestataires, la promotion Senghor est une promotion très conformiste. Vous qui avez enquêté depuis 3 ans sur cette promotion-là, on dit beaucoup de choses. Il y a une fantasmagorie autour de l'ENA, repoussoir pour les uns, objet de fascination pour les autres. Est-ce que vous diriez que c'est une usine de robots stéréotypés qui pensent tous pareil, en gros qui ont tous un logiciel libéral, pour faire clair ?
Non, ce serait caricatural de dire ça. Il y a quand même des écarts de pensée, des écarts de comportement, des écarts d'idées. Ce qui est vrai en revanche, c'est que ils s'inscrivent tous dans une certaine idée d'un consensus républicain que l'école leur inculque. Mais là encore, c'est difficile de savoir s'ils se retrouvent pas à l'école parce qu'ils ont déjà ce goût du consensus. Donc, conformiste, le mot est évidemment un peu péjoratif dans la bouche de Julien Aubert. En revanche, qu'il y ait une vraie pratique du consensus chez la plupart d'entre eux, chez l'infinie majorité d'entre eux, et que ce consensus soit aussi ce qu'on retrouve dans le fameux « en même temps » qui présiderait à la façon de penser et de gouverner d'Emmanuel Macron. Ça, c'est indéniable. Je dis dans le livre que ce que Macron fait à la tête de l'État, c'est finalement ce que l'ENA
lui a appris,
en tout cas professe depuis toujours. Ça, j'en suis absolument persuadé.
Oui. Alors, conformiste, pas sûr. En tout cas, elle s'est un peu rebellée, cette promotion. Est-ce que vous nous racontez qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont notamment enfreint la fameuse règle des reins de l'ENA, PDV, MV, PDV, pas de vague mon vieux, pas de vague.
Oui, c'est vrai que c'était une c'était une promotion un peu turbulente. Alors, bon, évidemment, quand on parle de rébellion, ça fait un peu doucement sourire, parce que ça reste très feutré, hein, ça reste quand même dans les couloirs de la digne institution qu'est l'ENA. Mais c'est vrai qu'ils ont remis, par exemple, un rapport incendiaire au moment d'amphigarnison, c'est-à-dire le moment où ils donnent leur choix à la fin des études. Ils ont remis un rapport vraiment incendiaire, et c'est vrai que c'était une... Ils avaient...
Ils disaient que l'enseignement était nul, en gros.
Oui, ils disaient, exactement. Bon, voilà,
qu'on n'apprend rien à l'ENA.
On n'apprend rien à l'ENA.
On comprend peut-être.
C'est une machine à classer et en plus qui classe mal, selon
On comprend pourquoi Emmanuel Macron veut réformer l'ENA. Merci Mathieu Larnaudy. Je précise, vous le dites dans votre livre, que vous n'avez pas voté Macron, donc vous n'êtes pas suspect.
Non, ce n'est ni une agiographie, voilà, ni un pamphlet,
ça,
d'ailleurs.
C'est
une description de cette aventure-là.
Les jeunes gens, la promotion Macron, c'est chez Grasset. Merci à vous et belle journée.
Merci beaucoup. Léa.